Amis du RH, bonjour. Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain ? Préparez vos AirPods, c'est parti ! Aujourd'hui, on va parler de la place de la femme en entreprise. Et pour parler de ce sujet hyper sérieux et qui a du mal à avancer, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Marie Delattre. Salut Marie, comment ça va ?
Bonjour Nicolas, ça va très bien et toi ?
Ça va, j'aurais peut-être dû dire la fille au béret.
Oui, bah, mon prénom c'est Marie, hein. Gardons ça, c'est très bien.
Alors, avant de parler du sujet, avant d'avancer, parce qu'on a pas mal de choses à dire dessus et je suis très heureux de parler de ce sujet-là avec toi, est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, te présenter en quelques mots et nous dire ton parcours et ce qui va montrer à tout le monde pourquoi je suis hyper content d'échanger avec toi sur ce sujet-là.
Bonjour tout le monde, moi c'est Marie, j'ai 30 ans, j'habite à Rennes. Je suis une ancienne RH qui est aujourd'hui influenceuse RH et créatrice de contenu. En 2019, j'ai fondé une communauté qui s'appelle la Sororité RH et qui rassemble les femmes de la fonction. Je m'exprime principalement aujourd'hui sur LinkedIn et Instagram. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Les RH de la vraie vie. Et ma dernière actu, c'est que en 2024, j'ai créé une agence qui s'appelle La Fille au Béret et qui fait du conseil en influence RH. Voilà.
Trop cool. Alors, d'où c'est venu, là, avant de commencer sur le sujet, d'où ça t'est venu de monter la sororité en 2019 ?
C'est venu de mon parcours. Donc, j'étais RH, j'ai traversé une crise de sens. Je ne savais plus comment exercer mon métier de façon à ce que ça me plaise. Après une expérience difficile, dans le sens où il y avait un climat social très compliqué dans la dernière boîte où j'ai été RH, c'était une fin de CDD, je me suis retrouvée au chômage, je réfléchissais vraiment à ce que je voulais faire, je ne me voyais plus être RH de la même façon. J'ai tenté un premier projet entrepreneurial qui a un peu foiré. Et en fait, j'étais vraiment en train de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et je traînais beaucoup sur Facebook. Donc, on était en 2019. Facebook avait un peu plus de hype qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait des groupes privés de RH mixtes qui se partageaient des pratiques, des questions, les gens se racontaient leurs questions et d'autres personnes pouvaient répondre. Et donc, groupe mixte traversé par un phénomène que j'observais et qu'on qualifie de mansplaining, c'est-à-dire des hommes qui apprennent aux femmes des choses qu'elles savent déjà et qui peuvent être légèrement condescendants envers ces femmes, parfois des hommes qui étaient eux-mêmes pas RH ou managers, dirigeants ou ce type de profession, et des femmes RH qui répondaient aux questions et qui parfois se faisaient répondre un petit peu méchamment. Donc j'ai vu ce constat-là, et moi je suis militante féministe dans ma vie personnelle, je connais les vertus de la non-mixité. Et je me suis dit, pourquoi ne pas appliquer la non-mixité dans le domaine RH et créer une communauté de femmes juste pour voir ce que ça donne. En fait, moi, au départ, je ne savais pas du tout que ça allait encore exister 5 ans après. C'est une expérience sociologique pour m'amuser, pour éventuellement rencontrer d'autres RH, m'en faire des copines ou quoi. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et puis, raconter un petit peu mon parcours, ma vision et savoir s'il y avait d'autres femmes qui étaient aussi perdues que moi dans le métier. Donc j'ai créé ce groupe-là et il y a eu un succès qui est arrivé assez vite avec beaucoup de membres et beaucoup de personnes intéressées. Ça a été plus long de faire participer les filles parce qu'au début, la majorité silencieuse est très présente. Mais au bout de quelques mois, ça a fini par un peu décoller et après, il y a eu plein de projets qui ont découlé de ça. Mais au départ, c'était pour ça.
Trop cool. Et donc aujourd'hui, tu as combien de membres sur la sororité ? Parce que c'est ça aussi qui bouge.
Aujourd'hui, il y en a 5400, à peu près.
Trop cool. Je trouve l'idée hyper intéressante, surtout, alors, même si elle est intéressante un petit peu partout, on en a déjà parlé, je trouve ça ultra intéressant, notamment dans le domaine RH, qui est quand même très particulier sur l'aspect parité homme-femme, parce qu'on sait que les RH sont, on en parlait la dernière fois, c'était 85%, hein, c'est ça ?
Ouais, la dernière étude de culture RH nous avait donné le chiffre de 85% de femmes RH, ouais.
85% de femmes RH. Et par contre, est-ce qu'on a le nombre de femmes DRH par rapport aux hommes DRH ?
Aujourd'hui, les femmes DRH, ça représente 60% de la fonction. On est sur du 60-40. Ça s'est inversé. Avant, il y a quelques années, ouais. 2018 à peu près, on était à 60% d'hommes, 40% de femmes. Ça s'est inversé. On est allé vers le 50-50, puis plus de femmes que d'hommes, à l'exception du CAC 40 où c'est 75% d'hommes.
Ouais. Plus le monde. Ce qui est quand même ultra, ultra, enfin, c'est hallucinant, quoi. T'as 85% de femmes qui font et t'en as que 60% au final qui sont au poste de DRH. C'est quand même un métier qui est très particulier pour ça et qui montre aussi tout l'intérêt, justement, je pense,
de groupe comme le tien, de non-mixité, parce que tu vois, c'est un truc que je n'avais pas forcément usité avant d'échanger avec toi, mais je trouve le sujet hyper intéressant parce que tu disais justement que ce type de pratique amenait à libérer la parole, amenait aussi à démystifier certaines choses, amenait justement à avancer sur certains points, et c'est ce que je trouve hyper intéressant, surtout dans un secteur qui est aussi peu avancé, on va dire, sur le côté parité que celui des RH.
En fait, c'est rigolo, mais en fait, c'est un métier qui souffre des mêmes clichés que les autres professions. Mais comme c'est cette fonction-là qui est responsable de l'égalité femmes-hommes en entreprise, on s'attendrait à ce que ce soit plus vertueux en matière d'égalité entre les genres. Et en fait, pas du tout. Dans la fonction RH, c'est les mêmes problématiques que des autres fonctions, et c'est pas parce que c'est une fonction qui représente l'égalité femmes-hommes qu'en fait il y a moins de problèmes, quoi. Dans les autres métiers aussi, on a des hommes dirigeants et des femmes assistantes, et voilà, donc c'est plus qu'on s'attend à ce que la fonction RH fasse exception, et en fait pas du tout.
Oui, c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'elle fasse exception. Bon, du coup, ça amène sur la première question. Ma première question, ça va être, on parle de parité, on en parle beaucoup, et on en parle depuis longtemps. Clairement, depuis longtemps, depuis que je suis tout petit, j'entends parler de parité. Alors, je ne suis pas très vieux, mais je commence à être un peu vieux quand même. Donc, ça fait plus de 40 ans que moi, j'entends parler de parité. Mais au final, est-ce que les choses ont vraiment bougé? J'aimerais savoir ce que tu en penses, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, toi et moi, en préalable. Mais personnellement, moi, je suis dans un écosystème où j'ai l'impression que les choses ont naturellement bougé, parce que pour moi, la parité, c'est un truc qui est vraiment classique. Enfin, ça me semble même pas une question, tellement c'est naturel, si tu préfères. Mais au final, j'ai pas l'impression, surtout quand je vois tout un tas d'études, quand on parle avec des gens extérieurs, je sais que c'est pas le cas. Et donc du coup, j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Pour toi, est-ce que ça a avancé? Est-ce qu'on avance dans le bon sens? Et surtout, où est-ce qu'on en est en fait?
Bah moi, il y a 40 ans, j'étais pas née.
c'est pas bien de le dire, mais c'est vrai.
Je me rappelle pas, je t'avoue comment c'était il y a 40 ans. mais j'ai sorti des chiffres quand même pour avoir un petit peu de contexte. Donc il y a 40 ans, bon, j'ai arrondi aux années 80. Ce qui a changé entre les années 80 et aujourd'hui, c'est que en fait, dans les années 80, on avait 65% de femmes et plus de 90% des hommes qui travaillaient. Il n'y avait pas du tout autant de femmes que d'hommes qui travaillaient à l'extérieur. Aujourd'hui, on est à peu près à égalité. Le chiffre que j'ai trouvé, c'est 80% de femmes et 84% d'hommes qui travaillent à l'extérieur. Donc, on est à peu près pareil. Par contre, ce qui a évolué beaucoup plus différemment, est-ce qu'il y a aujourd'hui, donc les femmes et les hommes travaillent autant, mais pas au même poste, pas de la même façon, et il y a toujours des inégalités au niveau de certaines choses. Par exemple, les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes à temps partiel. Il y a 80% des temps partiels qui sont pris par les femmes, et au niveau des congés parentaux, c'est 95% des femmes qui le prennent. Il y a moins de 1% des hommes qui prennent aujourd'hui un congé parental à temps plein. Et ça, c'est des choses qui disent que la parité n'est pas encore là, donc on est un peu comme si on était arrivé sur le terrain zéro, quoi. Aujourd'hui, on a autant de femmes que d'hommes qui travaillent. Par contre, aujourd'hui, on sait qu'il y a des métiers qui sont extrêmement féminisés, des métiers qui sont extrêmement masculinisés. Il n'y a pas beaucoup de mixité entre les deux. Les femmes, elles vont être beaucoup dans les postures de soins, d'assistanat, elles vont bosser dans la santé, avec les personnes âgées, les enfants, toujours tournées vers l'autre ou vers l'humain. Et donc, c'est pour ça, selon moi, qu'il y a autant de femmes dans la fonction RH aujourd'hui. Et les hommes, eux, vont aller beaucoup plus sur des postures de manager. Par exemple, il y a 37% des postes de manager qui sont occupés par des femmes. Donc presque 70% qui sont occupés par les hommes, et donc il y a eu de l'amélioration, puisque les femmes depuis la Seconde Guerre mondiale, elles ont progressivement investi massivement le monde du travail. Il y a plein de droits qui leur ont été accordés, ou plutôt des choses qui ne devaient pas être là, qui leur ont été enlevées. Par exemple, jusqu'à 1965, une femme ne pouvait pas travailler sur l'accord de son mari. Donc ça, c'est plus vrai aujourd'hui.
Cette histoire elle est complètement ouf.
C'est
quand même.
Dingue.
À chaque fois que j'entends cette loi qui est arrivée, enfin qui a été abolie justement, j'hallucine complet, quoi. 65, mais c'est
fou. Ma mère est née en 64. Je me dis, quand ma mère est née, ça faisait que un an. C'est-à-dire, mes grands-mères ne pouvaient pas travailler sans l'accord de leur mari. Et donc, dans les faits, j'imagine que les maris étaient souvent d'accord, surtout s'il y avait besoin de ramener deuxième salaire à la baraque. Mais quand même, quoi. Moi, je ne me vois pas du tout me dire, je ne suis pas mariée, mais si j'étais mariée, je ne me verrais pas demander à mon mari, est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux avoir un compte bancaire? Donc ça, c'est des choses qui, certes, c'était hier, mais même le droit de vote des femmes, c'était hier. C'était même pas encore il y a un siècle. Et donc ça a évolué. Mais en fait, il y a eu une progression, mais elle est de plus en plus lente. ça la problématique. Mmh. C'est que depuis 40 ans, il y a eu une progression, mais les écarts se réduisent toujours, mais très lentement. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Du coup, on arrive quand même à un niveau de parité. C'est assez intéressant les chiffres que tu nous sors, parce qu'on arrive à un niveau de parité sur le côté de comment dire, de l'emploi, en fait, sur le plein emploi des comment dire, des personnes, femmes et hommes. Par contre, il y a quand même encore un gros niveau. Alors, j'ai envie de te dire, ça ne me choque pas forcément d'avoir des métiers qui soient plus féminins, des métiers plus masculins. Tu me diras ce que tu en penses, mais ça ne me choque pas forcément parce qu'il y a des sensibilités différentes. On est dans une société qui est comme ça. On en parlera après, ce sera la suite. Il y a des choses que certains peut-être hommes ont plus envie de faire, des choses que d'autres femmes ont plus envie de faire. C'est l'évolution qui va peut-être un petit peu linéariser, mais qui va un petit peu niveler tout ça. Par contre, ce qui me choque le plus, c'est le côté management, en fait. C'est le côté décisionnel. Ça, je trouve ça absolument hallucinant. Et je ne sais pas vraiment comment ça pourrait évoluer et dans quel sens ça pourrait évoluer. Est-ce que ça pourrait évoluer plus vite? Comment ça pourrait être fait? Je ne sais pas comment ça pourrait être fait. Mais en tous les cas, moi, c'est vraiment le truc qui me choque. C'est ça, c'est ce que tu dis. C'est que simplement 37% des femmes aujourd'hui ont des postes de management contre 65% des hommes, quoi, tu vois. Je trouve ça absolument hallucinant.
C'est en fait... Pour moi, c'est pas du tout un hasard si les femmes ont ces postes-là et que les hommes ont ces postes-là. Et moi, je refuse complètement l'argument de « ce serait naturel, les hommes seraient naturellement attirés vers plus ces métiers-là, femmes plus ces métiers-là ». Non, c'est juste que le travail des femmes a été organisé autour du travail des hommes. Les hommes étaient déjà en place quand les femmes sont arrivées sur le monde du travail, donc les femmes sont venues entourer ce travail qui était déjà là, donc les hommes étaient déjà en place, en management, etc. Et les femmes sont allées sur les postes globalement dont les hommes ne voulaient pas ou plus. Et donc c'est pour ça qu'elles sont autant assistantes et qu'elles sont autant à s'occuper des autres. Et voilà, sur ces fonctions de care où on encourage les femmes à y aller, moi typiquement c'est mon parcours, j'ai été RH parce que, enfin, si vraiment je suis honnête avec moi-même, moi j'ai jamais voulu aider les gens particulièrement, c'est juste que en tant que femme, toute ma vie on m'avait fait comprendre que ma valeur elle était dans le fait d'être utile à l'autre, pas à moi, quoi, vraiment à l'autre. Donc je suis allée dans les RH parce que ça me paraissait un compromis entre les sujets qui m'intéressent, mon intérêt pour l'humain en général, mais moi j'ai plus une fonction, j'aurais été mieux comme sociologue, comme RH, parce que en fait je aider les gens c'était pas ma nature profonde, et ça je l'ai découvert vraiment sur le tard, parce que on est, sociétalement on est vraiment encouragé à aller sur le métier qui correspond à notre genre, et donc les hommes eux ils vont être encouragés à être ambitieux, à aller sur des fonctions de manager parce que c'est quelque chose d'ambitieux, t'es mieux payé, t'es valorisé socialement, etc. Et les femmes on va plutôt les dissuader d'être manager parce que typiquement si elles sont à temps partiel, ah ben non tu peux pas être manager parce que tu vas pas être assez présent pour tes équipes, si tu veux avoir une famille et t'occuper des enfants, bah non tu peux pas être manager parce que du coup ça colle pas, et donc les femmes se retrouvent à choisir entre leur carrière et leur maternité pendant que les hommes s'investissent très peu dans la vie de famille et dans l'éducation des enfants en général, bien sûr on reste toujours sur du général, et donc ça c'est ça qui crée toujours ces écarts, c'est qu'en fait on les maintient nous-mêmes en garantissant l'accès par exemple aux managers plus facilement à des hommes parce qu'ils sont plus présents, ils sont plus, ils ont plus la culture aussi, on vit dans une entreprise, dans une façon de voir l'entreprise qui est très masculine, avec des choses qui sont valorisées comme l'action, l'ambition, une certaine dureté, le côté taper du poing sur la table, etc., que les femmes, dans l'énergie féminine, vont avoir moins. Et ça, c'est pas valorisé. L'énergie féminine, elle est pas du tout valorisée dans notre société. Tout ce qui est doux, empathique, tout ça, c'est pas du tout... Après, pour quand même expliciter... tous les humains ont les deux énergies masculines et féminines. C'est juste que les femmes vont possiblement avoir plus d'énergie féminine et les hommes plus d'énergie masculine. Mais il y a aussi plein de femmes, notamment, c'est ces femmes-là souvent qui vont accéder au poste de manager et au poste de cadre dirigeant. C'est des femmes qui ont une énergie masculine et qui ont réussi un peu à se couler dans un costume d'homme pour accéder à des postes plus élevés. Mais on est dans une entreprise et de toute façon, on est dans une société construite par le masculin et pour le masculin, et où les femmes ont un rôle bien défini, et ce rôle, il n'est pas forcément en entreprise, dans les instances dirigeantes. On le voit bien avec la répartition, notamment des entreprises du CAC 40, où il n'y a presque aucun dirigeant qui est une femme, presque aucun DRH qui est une femme. C'est pas des hasards, quoi. C'est quelque chose qui a été construit.
Et alors, du coup, quand je disais tout à l'heure naturel, c'était pas naturel dans la nature, hein, c'était plutôt naturel justement dans l'environnement, et c'est la suite, en fait, de la question que je veux te poser, c'est que est-ce que, à ton avis, l'entreprise peut faire avancer les choses de son côté, sans évolution réelle de la société ou est-ce qu'elle doit attendre l'évolution de la société pour pouvoir avancer ? Je m'explique aussi sur le sujet. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, tu vois, nous, je te prends les entreprises dans lesquelles je suis, on ne se pose pas cette question-là. Donc du coup, comme on ne se pose pas cette question-là, peut-être que les femmes qui bossent chez nous, en fait, de fait, ne se posent pas cette question qu'elles pourraient se poser dans leur environnement naturel, classique, parce que justement, chez nous, on ne se pose pas la question est-ce que tu es une femme, est-ce que tu es un mec, est-ce que je vais te mettre tel salaire, tel truc, est-ce que tu peux monter. Enfin, on s'en fout, quoi. Pour nous, c'est naturel, toutes les personnes sont égales. Et de la même manière, j'en parlais avec quelqu'un qui s'appelle Guillaume Mathias, qui fait des neurosciences, et de la même manière, quand tu parlais d'énergie féminine, d'énergie masculine, les attentes physiologiques des personnes, donc qui sont des vraies attentes physiologiques, en fait, qui induisent des sentiments et des attentes réelles, les attentes physiologiques des personnes, on a tous les mêmes. Et in fine, on peut les travailler par rapport à un environnement restreint qui peut t'amener justement à avoir telle ou telle attente. Est-ce que justement l'entreprise ne peut pas contribuer à faire changer les choses ? Est-ce qu'on est tributaire de la société avec un grand S ? Ou est-ce que vraiment on peut essayer de faire avancer les choses à notre niveau ? Et donc du coup de faire peut-être une évolution, alors pas par le bas, mais une évolution transverse justement par les sociétés, faire avancer la cause par les sociétés.
Je pense que vivant dans une société capitaliste, c'est les entreprises qui vont faire évoluer la société et pas l'inverse. Si une entreprise attend, et ça peut être une excuse justement de dire « moi j'évoluerai quand la société va évoluer », c'est nous qui composons la société et c'est les entreprises qui composent la société. Le travail, c'est une valeur qui est super importante dans notre société. Donc, en tant qu'entreprise, attendre que la société bouge, c'est le meilleur moyen que ça bouge jamais. Donc, évidemment que les entreprises ont une responsabilité primordiale dans l'évolution de la société sur les inégalités femmes-hommes, et notamment sur les inégalités de salaire, sur les inégalités de prise de congés parentaux, de temps partiel. On voit des trucs, j'ai vu quand j'étais RH, des PDG essayer de dissuader des hommes de prendre leur congé naissance de 3 jours parce qu'on ne pouvait pas se passer d'eux pendant 3 jours, alors prendre le congé paternité. Et qu'en plus, quand j'étais RH, il était encore que de 11 jours. Donc, c'est déjà partir 15 jours, c'était catastrophique. De l'autre côté, on ne recrutait pas de femmes parce qu'elles allaient être absentes en congé mater, donc c'était problématique. Et ça, il y a plein de témoignages encore aujourd'hui de ça, de l'évolution des carrières des femmes qui est freinée par la maternité. Et du coup, étonnamment, la démographie est en train de baisser et on va la France, on va devenir comme l'Allemagne ou comme le Japon ou la Corée, où il y a de moins en moins d'enfants, mais parce que les femmes en ont marre de devoir choisir entre maternité et carrière. Et du coup, bah, les entreprises vont évoluer, la société aussi. Mais en fait, tout va ensemble. Ça fait un cycle, c'est pas séparé. Les entreprises sont imbriquées dans la société. Et en plus, on est une société qui est centrée autour du travail et de l'argent. Donc oui, les entreprises vont faire évoluer les pratiques. Et ce qui va être super important là, à notre époque, ça va être de mettre en avant les entreprises qui sont vertueuses et qui montrent le chemin de ce qu'il faut voir aujourd'hui et demain. Et ce qui est vraiment notre responsabilité, ça va être ça. Ça va être que les dirigeants qui soient mis en avant, que ce soit des hommes ou des femmes, ce soit ceux qui aient des valeurs féministes, qui aient des valeurs en pro-égalité femmes-hommes et qui mettent en place des bonnes idées et qui justement donnent des idées, des choses à mettre en place. Et c'est là comme ça qu'on pourra avancer dans le bon sens. Et les entreprises qui diront « moi j'attends l'évolution de la société pour bouger », c'est des gens qui ne veulent pas bouger. Donc voilà mon opinion.
Mais je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Pour moi, ça doit bouger sur cet aspect-là. Mais du coup, c'est quand même un peu tricky, tu vois, comme système, parce qu'au final, on dit que les entreprises doivent bouger, et je suis d'accord, mais si certains dirigeants aujourd'hui fonctionnent comme ça, c'est parce que leur environnement sociétal, et donc pas forcément de société en tant que tel, mais leur environnement sociétal global, les amène à réagir comme ça. Donc, c'est-à-dire que quelque part, il faudrait que leur environnement sociétal bouge pour pouvoir eux-mêmes les faire bouger, et donc du coup, faire bouger la société, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, je pense, perso, et tu me diras ce que tu en penses, mais je pense qu'on a quand même une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est quand même beaucoup plus au fait de ces sujets-là. Et en fait, c'est même pas qui est au fait de ces sujets-là, c'est-à-dire pour lesquels ces sujets-là ne sont pas des sujets. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas un sujet. Tu vois, je te donne mon exemple. Pour moi, la parité n'est pas un sujet, la diversité n'est pas un sujet, le handicap n'est pas un sujet. Parce que ça fait partie, enfin c'est naturel, tu vois, c'est le quotidien. Donc pour moi, ce ne sont pas des sujets. Et je pense qu'il y a une grosse partie des entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs qui sont comme ça. Mais est-ce que justement, ça va aller suffisamment vite ? Est-ce qu'on ne va pas se faire enfoncer par toute la partie supérieure qui est là depuis très longtemps et qui a justement ces pratiques ancestrales qui sont un petit peu rétrogrades ? Et donc du coup, est-ce que ça va pas être une chape au-dessus du développement ? Je ne sais pas.
On va voir. Après, moi, je nuance un petit peu sur le côté jeune génération parce qu'il y a une étude assez intéressante qui était sortie il y a quelques mois, comme quoi les garçons trentenaires étaient aujourd'hui plus réactifs que leurs aînés. et qu'il y a une sorte de retour en arrière sur certains... En fait, on arrive à un moment de l'histoire où le féminisme, ça commence à être vraiment connu. On a conscience de plus en plus, on a de plus en plus de témoignages. Il y a beaucoup de voilà, l'ère MeToo, elle a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus d'infos sur tout. Aujourd'hui, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas être renseigné sur le sujet, ne serait-ce qu'un minimum. C'est vraiment là, c'est des gens qui ont fait exprès de ne pas se renseigner, parce que tu ouvres un journal, là, c'est bon, hein, tu t'es renseigné, tu connais au moins le sujet. Et après, il suffit d'aller se renseigner un peu plus sur Internet, avec tous les contenus qu'il y a aujourd'hui quand même. Et donc, cette étude, elle avait pas mal choqué. En même temps, ça ne nous avait pas trop, trop surprise, parce qu'on va arriver dans un moment de l'histoire où ce sera un peu plus tendu, je pense, entre femmes et hommes, parce que là, ça va être le moment où il va falloir passer un peu la seconde et avancer sur des sujets qui sont encore très compliqués, justement, pour les générations déjà anciennes, voilà, même des sujets qui sont plus touchy, comme la transidentité, la non-binarité. Heureusement, on a avancé, par exemple, sur les sujets de l'homosexualité ou ce genre de choses, on a quand même avancé depuis des années. Mais voilà, donc j'espère aussi que, et je vois quand même dans les contenus que produisent, par exemple, la jeune génération, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont avancé, mais cette étude vient un peu dur, c'est le truc. Je me dis, après, je ne vois pas l'avenir non plus, donc on verra, mais... En tout cas, ça va être super important qu'il y ait beaucoup d'initiatives individuelles pour justement aller dans le bon sens et qu'il y ait beaucoup de témoignages qui soient faits en fait pour faire avancer la société dans le bon sens et en tout cas qu'on n'attende pas que ce soit les autres qui fassent quoi. Parce que ça n'arrivera pas. Parce que justement, les gens qui sont les dominants d'aujourd'hui, voilà, même en termes de dirigeants d'entreprise, les dirigeants qui ont aujourd'hui, qui sont de la génération Baby Boom ou X, eux, ils vont pas vouloir que ça change. Et donc, faudra pas se laisser justement écraser par cette génération-là, parce que sinon, on s'en sortira pas. Et bon, après, naturellement, ils vont quitter le marché de l'emploi. Hein. Donc, on avancera aussi.
Ça fait un peu flipper l'étude dont tu parles, parce que justement, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je fais partie de certains business clubs et de temps en temps, je me retrouve attablé avec des chefs d'entreprise. Et au-delà du fait que, alors c'est qu'on va dire parce que j'en suis, hein, mais au-delà du fait que la majeure partie, je vais te dire peut-être 90% des chefs d'entreprise dans ces endroits-là sont des mâles blancs de 40-50 ans, tu vois. Je le dis, j'en suis, hein, donc, mais c'est la majeure partie, donc c'est un peu dommage. Au-delà de ça, t'entends certains discours qui font flipper, quoi, mais vraiment qui font flipper. C'est des discours de c'était mieux avant, avec des notions justement de non-parité, de positions qui sont très souvent mises sur l'aspect de la blague, tu vois ce que je veux dire, mais, ouais. Mais autant moi je peux faire de l'humour, et j'ai un humour qui est très noir, qui est très cinglant, mais généralement je le fais avec les personnes en question, autant quand ce type de blague est faite sur
c'est
des personnes
des blagues,
dans un environnement que tu connais pas vraiment, avec... c'est pas forcément, ça s'est mis sous le ton de l'humour, mais c'est pas forcément des blagues, donc du coup ça fait un peu flipper. Je t'avoue que ça fait un peu flipper, donc j'espère que l'étude dont tu parles sur les trentenaires...
Il faut que je la retrouve bien, pour te donner le lien exact, ouais. Histoire d'avoir des sources, mais ça a été sorti il y a quelques mois, et ouais, ça avait fait pas mal flipper. L'étude disait que les femmes étaient de plus en plus dans l'égalité, dans l'équité, et de plus en plus féministes, et que les hommes, par contre, avaient un sursaut un peu réactionnaire, parce que ça veut dire changer, parce qu'on est sur une époque où il faut changer, où il y a plein de choses qui étaient acceptables avant, qui ne le sont plus, les minorités parlent de plus en plus, on parle de féminisme, de racisme, voilà, de plein de sujets dont on ne parlait jamais avant. Et moi, ce qui me fait trop rire quand même sur ces générations-là, sur ces hommes blancs dont tu parles, qui parlent d'une époque, en plus, ils parlent souvent d'une époque qu'ils n'ont pas connue, c'est ça qui est terrible. C'est qu'ils idéalisent, par exemple, beaucoup d'hommes idéalisent les années 50, avec la femme à la maison, l'homme au travail, et même les femmes aussi peuvent idéaliser cette période avec le mouvement qu'on appelle celui des trad-wives, traditional wife, qui idéalisent le fait d'être femme au foyer et qui disent « moi je suis à l'ancienne, je veux que ce soit l'homme qui ramène l'argent à la maison, et moi je m'occupe de faire à manger, m'occuper de la maison et tout ça », et elles ont le droit de faire ce choix totalement. Mais c'est souvent une idéalisation d'une époque qu'on n'a pas connue et donc on n'a pas tous les éléments. Et moi, j'essaie justement de discuter, par exemple, avec ma grand-mère qui est née dans les années 40 pour savoir comment c'était à l'époque. Et franchement, autant le monde du travail qu'a connu ma grand-mère, il semblait assez, il semblait plus facile que le nôtre, autant le monde des relations hommes-femmes, le mariage, les enfants et tout, non, j'aurais jamais voulu vivre ça. T'étais mariée avec le mec qui t'avait mise enceinte au bal du village, et puis après, t'avais pas le droit de divorcer. Super, quoi. Au moins, nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus indépendantes que nos grand-mères. On a le droit de choisir notre partenaire, on a le droit de choisir même des partenaires du même sexe si c'est notre sexualité. Et tout n'est pas réglé, mais il y a quand même des choses qui ont énormément évolué, et heureusement. Et moi, je ne fantasme pas sur les années 50. Faut vivre dans son temps. Hein.
je suis complètement d'accord avec toi. Moi, perso, je fantasme plus sur les années moins 2000, mais ça, c'est un aspect histoire que j'aimais bien à l'époque, donc c'est complètement différent.
Ils avaient d'autres problèmes.
Ils avaient d'autres problématiques. Par contre, je ne suis pas sûr que les relations... Quoique si, dans l'Antiquité, c'était un peu différent. Il y avait quand même une ouverture qui était quand même complètement différente.
C'est fascinant, j'aime beaucoup. Tu vois, moi, il y a une époque qui me fascine, c'est la Rome antique. Et j'ai lu pas mal de bouquins sur notamment les relations aux femmes et même la prostitution dans la Rome antique. Et c'est assez intéressant comme sujet de voir comment, ou même on dit les relations, dans la Grèce antique, où l'homosexualité était très normale. C'était il y a hyper longtemps et ça nous paraît ahurissant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était même la norme. Les femmes, c'était ces personnes sans âme qui sont des créatures de l'enfer et qui sont moins que des enfants. C'est fou quand même de se dire
ça. C'est particulier. Bah après, c'était même différent parce que l'homosexualité dans la Grèce antique, c'était même intégré dans l'éducation, donc c'était quelque chose de différent. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, moi je suis assez fan de l'époque aussi byzantine, c'est que c'est une époque dans laquelle les femmes dirigeaient. Tu vois, il y avait beaucoup de femmes dirigeantes. Il y a toute une époque d'impératrices byzantines, il y avait des reines d'Égypte, il y avait tout un tas de choses.
Oui, pratiquement
les plus grandes, tu vois, les... si tu prends l'époque byzantine, les plus grandes figures en fait étaient des impératrices, tu vois. Donc c'était assez intéressant. Donc il y avait vraiment une relation qui était vraiment complètement différente. Bon, on va arrêter de digresser, sinon on en a pour la journée.
Podcast historique.
C'est ça. Je vais te poser une question factuelle en fait. Donc on s'est dit que potentiellement, d'après ce que tu dis, tu penses que l'évolution peut se faire par les sociétés. Et je suis d'accord avec toi. Mais du coup, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre ? Quelles seraient les actions qu'il faudrait mettre en place pour qu'on n'ait plus cette discussion dans 15 ans ? Parce que moi, mon rêve, en fait, c'est justement ça. C'est justement qu'on ne parle plus de ces sujets. Parce que pour moi, si on ne parle plus de ces sujets, c'est-à-dire que ce ne sont plus... Alors, il y a deux options. Hein. C'est soit qu'on n'en parle plus parce que justement, c'est la merde infinie. Soit on n'en parle plus parce que justement, il n'y a plus de sujet en tant que tel. Donc, je partirais sur la deuxième option, on est bien d'accord. Mais quelles seraient pour toi les actions à mettre en place pour faire en sorte que les sociétés, en fait, contribuent justement à cette évolution ?
Ouais, déjà, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le rêve du féminisme, c'est que le féminisme n'existe plus parce qu'il n'y en aura plus besoin. et les actions qu'on met en place, déjà, je suis pour les quotas. Je suis pour les quotas parce que ça marche. Et je me souviens qu'on avait eu une discussion sur les quotas il y a quelques semaines. Et moi, je suis pour parce que juste ça marche. Enfin, je suis pour théoriquement, j'aimerais bien qu'on s'en passe. Mais quand il y a des choses qui marchent, il faut les garder. Donc, je pense qu'il faudrait mettre en place plus de quotas, peut-être sur d'autres sujets. Continuer à faire le travail sur les index, égalité professionnelle, index senior, etc. Continuer sur ces sujets-là et peut-être un peu intensifier le travail. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est joli d'avoir commencé, mais il faut un peu intensifier tout ça. Il y a des enjeux d'éducation
Sur les quotas, je te l'avais dit, hein, la première avec qui j'en ai parlé, c'était Maude Grenier, vous êtes deux à m'en avoir parlé, et c'est vrai que vous avez fait changer mon esprit sur le sujet, parce que moi au départ je suis contre ça, parce que pour moi le fait d'avoir des quotas, c'est-à-dire faire de la discrimination positive, alors qu'en fait on ne devrait pas faire de discrimination positive, ça devrait être naturel. Mais là où vous avez fait changer mon esprit, c'est qu'effectivement je suis d'accord avec vous, pour pouvoir faire avancer, il faut passer par ça. Ça m'énerve profondément de devoir le faire, mais je suis complètement d'accord, in fine il faut passer par ça. Donc oui, effectivement,
ça serait bien qu'on puisse s'en passer, mais on a testé, ça fonctionne, voilà. On continue, hein. Et un jour, on n'aura plus besoin. Mais en fait, je pense que c'est même un truc psychologique de l'humain, quoi. C'est l'humain et a une aversion au risque qui va faire que si on ne force pas, il ne fera jamais. Ça va être des bonnes intentions, que ça va être oui, on va faire attention, oui, on va mettre plus de femmes au conseil d'administration, puis après, oui, mais les femmes, elles sont toujours à temps partiel ou en congé mater, donc oui, non, mais là, on n'a pas fait exprès. Au bout d'un moment, si on ne force pas les choses, on ne va pas y arriver. Donc c'est terrible de devoir en arriver là, mais je crois que c'est un choix. Et d'autres solutions, ça va être de travailler énormément sur l'éducation, notamment des enfants, Ça, c'est des choses qui sont déjà enclenchées. C'est très, très chouette de voir des nouveaux modèles d'éducation qui arrivent, éducation positive et notamment une éducation à l'égalité et à l'équité qui est faite de plus en plus tôt. Donc, continuer sur ça. Je suis pour aussi le name and shame, dans le sens comme le fait Balance ta Startup, par exemple, parce que, encore une fois, ça marche. Une boîte qui se fait afficher sur Internet et qui perd des clients, ben, c'est l'appel du porte-monnaie, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la société dans laquelle on est. Donc, s'il faut en passer par là, en fait, c'est faut orienter solution, quoi. C'est dans les faits, j'aimerais bien aussi qu'on évite de faire du name and shame sur certaines boîtes, mais comme ça fonctionne et que, évidemment, avec preuve et tout, voilà, de manière éthique, mais toujours est-il que ça fonctionne, ce genre d'initiative, donc c'est sympa qu'il y en ait. Et puis, qu'est-ce que je m'étais mis de côté en fait, de l'éducation et de l'accompagnement, de la sensibilisation, notamment auprès des hommes pour l'éducation des enfants, la charge mentale, continuer à témoigner, et puis, en fait, c'est bien quand même qu'il y ait une action de l'État sur ce genre de choses, mais je pense qu'en tant qu'entreprise, et peut-être surtout les grandes entreprises, si elles pouvaient avoir un rôle plus prégnant sur ces sujets-là, on avancerait plus vite. Et malheureusement, aujourd'hui, les grandes entreprises n'ont pas... Elles font des actions, mais est-ce qu'elles ont vraiment un rôle stratégique là-dedans Peut-être pas autant qu'il le faudrait, mais parce que le but des... Elles sont dans le système dans lequel elles sont aussi, donc... J'ai pas les solutions miracles, mais conjuguer tout ça et encourager les initiatives individuelles. Et puis surtout, voilà aussi, j'en parlais tout à l'heure, mettre en avant les entreprises qui font les choses bien, les personnes qui font les choses bien, témoigner, parler. Et là, on est vraiment dans l'époque où on n'a pas forcément énormément plus de solutions qu'avant, mais par contre, on parle beaucoup plus qu'avant. Il y a des choses qui ne sont plus tolérables et qui ne restent plus dans le silence. Et ça, je suis contente de vivre à cette époque parce que je me dis au moins... On ne parle pas de tout, il y a plein de choses qui sont encore passées sous silence, mais au moins il y a une dynamique quand même d'en parler et de ne plus blâmer les victimes et vraiment d'aller là-dessus. Et il y a plus en plus de femmes ultra badass qui font des choses merveilleuses et qui sont mises en avant. Il y a la sororité aussi qui a quand même beaucoup évolué. On sort un petit peu de ce côté rivalité féminine un peu cliché. Je le vois avec la sororité RH, c'est quand même une belle communauté de femmes qui s'entraident et qui sont toujours bienveillantes entre elles, au point que je n'ai pas besoin de faire de modération ou presque pas. En fait, elles sont très courtoises entre elles et puis voilà, tout se passe bien. Et c'est chouette de voir des initiatives comme ça, et donc il faut en créer plus et encourager une démarche bienveillante comme ça.
Donc on pourrait prendre pour les entreprises à bosser, on pourrait prendre trois aspects, si jamais je te rejoins sur le sujet. Ça serait le fait déjà de respecter des quotas, de mettre en place des politiques en fait, qui fassent avancer les choses, que ça soit sur la parentalité, que ça soit sur la parité, sur toutes ces choses-là, parce que mine de rien, c'est pas que le côté parité qui va jouer, c'est le côté parentalité aussi qui va jouer.
Bien sûr.
Parce que si tu mets tout le monde sur le même pied d'égalité, je crois que c'est toi qui m'avais dit, si je me rappelle bien, que tu étais super contente en fait que les hommes aient le même comment dire, temps de congé paternité que les femmes, parce que du coup ça allait amener au fait de niveler l'accès à l'emploi. C'est-à-dire qu'au final, si demain les hommes ont le même temps de congé parental que les femmes, congé paternité que les femmes, bah forcément quand tu vas recruter quelqu'un, tu vas plus faire de distinction parce qu'ils pourront faire exactement la même chose l'un comme l'autre. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est une remarque qui était très très juste, parce que je le voyais d'un autre côté, d'un côté égalitaire, c'est-à-dire que c'était cool, ça allait les mettre sur le même pied d'égalité, mais je voyais pas forcément cet aspect justement de discrimination qu'il pouvait y avoir à l'embauche et qu'il y aura moins justement du fait d'avoir cette évolution.
C'était pas moi, mais j'approuve. En fait, tu m'en as parlé, mais c'est quelqu'un d'autre qui te l'a dit. Et je t'ai dit, cette personne a tout à fait raison. Et voilà, donc à retrouver, on va rendre à César ce qui appartient à César. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Le jour où, quand un couple aura un enfant, la question se pose vraiment de se dire, OK, qui c'est qui, s'il y a un temps partiel à prendre, qui c'est qui réduit son temps partiel et que ce soit sur le même pied d'égalité, l'homme ou la femme, oui, là, on aura vraiment avancé. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop posé sur les épaules des femmes.
Donc mettre en place toutes ces choses-là, faire de l'éducation, parce que ça, c'est aussi important, faire de l'éducation, c'est-à-dire faire de la formation au sujet, en parler en interne, expliquer comment ça se passe, mettre en avant en interne tous ces sujets-là, ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Communiquer vraiment à l'externe, c'est vraiment les trois points, en fait, qui sont hyper importants. Ce qui me choque entre guillemets énormément quand on en parle, je vais te dire pourquoi, c'est que pour moi, ce sont exactement les mêmes actions à mettre en place que quand on parle du handicap. Donc, c'est-à-dire que ça me choque d'un côté parce que je me dis qu'au final, on est en train de parler d'un sujet qui est que le fait d'être une femme aujourd'hui est un handicap. Je trouve ça assez hallucinant parce qu'au final, il y a la même finalité qu'on va demander à l'entreprise. Et je trouve ça assez ouf, en fait.
En fait, c'est là que c'est dans ces sujets-là que tu te rends vraiment compte qu'on vit dans un monde d'hommes. Parce qu'on considère la femme comme une minorité, alors que dans le monde, on est plus nombreuses que vous. Et pour autant, on est une minorité parce que le monde, il n'est pas fait pour nous. Mais dans tous les domaines, dans les sciences, il y a moins de recherches faites sur les maladies féminines. Des fois, je tombe sur des trucs, genre quand on fait des tests sur les voitures, quand les voitures se crashent là, pour voir les mannequins qui y a à l'intérieur, c'est des mannequins d'hommes. Donc, on ne sait pas comment les femmes se comportent dans des accidents de voiture parce qu'on teste que sur les hommes. Les médicaments, on les teste sur les hommes. Il n'y a aucune recherche, ou presque aucune recherche qui est faite sur l'endométriose, alors qu'à côté, sur les problèmes de kiki, là, c'est bon, là, on en fait plein des recherches, ou sur la calvitie. Et c'est vraiment dans ce moment-là que tu te rends compte que oui, les femmes, les personnes racisées, les personnes handicapées, les personnes qui ont un genre autre que binaire, c'est tout le même combat. Et c'est ça que j'aime dans le féminisme, c'est que ça rassemble tout. Pour moi, je me revendique féministe intersectionnelle. Ça veut dire que mon combat, il ne sert pas que la cause des femmes, il sert aussi, moi-même je suis handicapée, donc ça sert aussi évidemment la cause des handicapés, je ne suis pas hétéro, ça sert aussi la cause LGBT, et en fait, moi c'est juste que j'en rassemble plusieurs, mais le féminisme, ce n'est pas que pour aider les femmes blanches, hétérosexuelles et cadres sup, c'est pour aider tout le monde, toutes les femmes, toutes les personnes, et ça aide aussi les hommes, et c'est ça qui est aussi le message vraiment à transmettre, c'est que le féminisme, c'est aussi un truc d'homme, dans le sens où on a besoin d'alliés, on a besoin de personnes qui se sont justement infiltrées dans ce monde-là, qui comprennent les rouages, et qui peuvent nous dire comment faire évoluer la société pour que tout le monde s'y retrouve à la fin. Et c'est dommage justement de voir le féminisme qui est décrié, soi-disant que c'est un combat homme-femme, alors que non, c'est un combat global pour une société nouvelle et vertueuse pour tout le monde. Ce qui est compliqué à entendre pour certains hommes, c'est que oui, il va falloir abandonner certains privilèges qui étaient en trop aujourd'hui. Il va falloir abandonner un petit peu pour donner à tout le monde. Et tout le monde va survivre, on va y arriver. Et voilà, c'était le coup de gueule de la journée.
Non, mais t'as entièrement raison. Et je suis complètement d'accord avec toi. On en a déjà parlé. Je mets juste une nuance perso sur le côté trop, même si on en a déjà parlé, il y a besoin d'extrêmes pour pouvoir avancer sur certains sujets. Mais de mon point de vue, il y a certains extrêmes qui sont de trop parce que du coup, les gens se focusent en fait sur le fait de dire elles sont trop féministes, extrémistes et donc du coup, elles veulent trop tout casser alors que ce n'est pas du tout la
Mais à quel moment les féministes extrémistes cassent des trucs en plus? Il n'y a rien qui est cassé. Au pire, on fait des tags dans la rue et on monte nos seins.
Non, mais c'est pas de ça dont je parlais, tu sais, c'est plutôt le fait de vouloir tout égaliser, alors qu'au final, bah, t'as pas forcément besoin de tout égaliser, quoi, tu vois, il y a des manières de se comporter que je trouve qui peuvent être intéressantes, même si elles sont pas égalitaires.
L'égalité, c'est l'équité qu'on a atteint. Les hommes et les femmes restent différents, avec des fonctionnements différents, et on s'adapte à ça.
Et tu sais quoi, tu viens encore une fois de me mettre une graine dans la tête. Tu as entièrement raison. La différence, c'est entre l'égalité et l'équité. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je suis totalement pour l'équité, mais complètement. Mais je ne suis pas forcément pour l'égalité parce qu'il y a des différences. De la même manière qu'il y a des différences dans plein de domaines et dans plein de personnes, tu vois, qui sont différentes et donc du coup qui ne peuvent pas, enfin, qui n'auront pas les mêmes rapports entre eux parce que les personnes sont différentes. Donc je suis
Des fois, l'égalité, ça ne résoudra pas le problème, quoi. Tu peux donner l'égalité, mais en fait, ça prend pas en compte la réalité de certaines personnes où l'équité, c'est plus loin. C'est adapter la situation à la réalité de chaque personne et donner à chaque personne ce dont elle a besoin. Pas faire un droit. Il y a des droits dont moi, je ne saurais que faire parce que ça me parle pas ou je suis pas concernée ou j'en ai pas besoin. Ou tu peux me donner le droit d'aller voir un médecin de maladie pour homme, super, j'ai ce droit-là, mais je vais pas m'en servir.
Mais tu viens de mettre un mot juste, encore une fois, sur quelque chose que je cherchais depuis longtemps, donc merci encore beaucoup. L'équité par rapport à l'égalité, je trouve que c'est vraiment très très juste, et ça transcrit vraiment tout ce que je pense, c'est-à-dire que pour moi, Il y a certaines personnes qui veulent trop tout égaliser alors que ça n'est pas nécessaire. Par contre, l'équité est nécessaire. C'est deux choses qui sont vraiment complètement différentes et qui sont pour moi... Enfin voilà, l'équité, je suis encore une fois complètement d'accord. Donc, merci pour cette... cette
de rien.
Que t'as mis. Je vais te poser la dernière question qui est peut-être la plus sympa, mais en même temps la plus subjective. C'est pour toi, l'entreprise en 2034, tu la vois comment ?
Bah, ça dépend s'il y a mon côté révolutionnaire qui parle ou pas. Si y a mon
ce
côté,
que tu veux, c'est toi qui vois.
Ça peut... Si on continue comme aujourd'hui, ça va continuer par une progression lente. Il y aura des témoignages qui vont arriver sur différents sujets. On va avancer doucement, doucement. Mais si d'ici 10 ans, on vit une troisième guerre mondiale et une révolution, là, il y aura certainement des changements. En fait, aujourd'hui, il y a même des craintes sur une potentielle régression des droits des femmes, notamment. On le voit dans d'autres pays, il y a une régression des droits des femmes, donc on n'est pas à l'abri. Et ça c'est surtout ce que nous a montré les récentes actualités autour des États-Unis et de l'IVG, par exemple, où on s'est rendu compte. Nous, on pensait que c'était des droits qui étaient acquis, et un droit n'est jamais acquis. Ça nous a pas mal choqués, je pense, beaucoup de femmes. Donc, ça nous a rappelé le côté essentiel...
Beaucoup d'hommes aussi, hein, je te rassure, hein, ça nous a choqués aussi.
Bien sûr. Bien sûr, je suis heureuse d'entendre que les hommes aussi. Mais de toute façon, ça les impacte aussi. Hein, donc, ouais. Et du coup, bah, j'espère que le futur sera beau. Et en tout cas, moi, ça me donne envie de vraiment m'impliquer dans cette cause et de continuer justement à en parler. Et tu me donnes une occasion d'en parler aujourd'hui, donc merci pour ça. Et de continuer justement, alors certes avec mes sujets RH qui parlent pas à tout le monde, qui sont pas grand public, mais pour moi c'est important de parler de féminisme dans la fonction RH parce que ça infuse après dans d'autres fonctions et que c'est important aussi d'en parler à mon échelle. Et si moi j'en parle à la fonction RH et qu'à côté il y a une fille qui en parle dans la fonction marketing, qui à côté une fille qui en parle dans la fonction com, etc., tout relié, ça fait des belles synergies et ça peut faire évoluer les choses. Et donc voilà. Donc, soit on continuera comme on est, soit il y aura une sorte de révolution. Et à ce moment-là, il y aura des gros moments de l'histoire qui vont se décider à ce moment-là, j'en suis persuadée. Et c'est là aussi où on verra à quel point on est prêt à s'impliquer ou pas dans la cause. Et voilà, j'espère en tout cas que ça ne va pas trop régresser et qu'au contraire, on va plutôt aller dans le bon sens. Mais... En 10 ans, je ne pense pas qu'on va non plus arriver à, paf, équité, on est à l'égalité des salaires, tout ça, sachant que, selon les chiffres, il faut encore 200 ou 300 ans. Bon, si déjà on a réduit de quelques pourcents, ce sera pas mal. On ne va pas tout changer en 10 ans. Bon.
Alors, je prends, même si perso, je vais essayer d'être plus optimiste. Malheureusement, je pense que ma vision est biaisée, comme je te l'ai dit, parce que je suis dans un écosystème qui est celui-ci, donc j'ai un petit peu de mal. Mais j'espère du coup qu'on sera entre les deux. Entre ma vision optimiste et la tienne qui est un petit peu plus
un petit peu
lente, mais elle est réaliste, on va dire. Elle est plus réaliste.
Oui, voilà, c'est vrai que je suis.
Elle est plus réaliste. Moi, dans mon esprit, c'est dans 2030, c'est fini, quoi, tu vois.
C'est pays de Casimir parité, dans ta tête. Ou...
Mais oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème d'être dans un monde comme ça. Et c'est pour ça que c'est important. Et je pense que c'est hyper important, justement, qu'on en parle de plus en plus, que tu vois, que t'en parles. C'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve ça important de parler de tous ces sujets dans des espaces qui sont pas forcément des espaces qui ont l'habitude d'en parler, même si on est conscient des problématiques, même si on est conscient de ce qui se passe à l'extérieur, comme on ne le vit pas au quotidien, bah, du coup, on n'axe pas suffisamment notre communication dessus parce qu'on a l'impression que c'est fait. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler parce que ça n'est pas fait. On en parlait ensemble, et tu l'as dit à juste titre, il y a les mêmes sujets sur le côté LGBT, il y a les mêmes sujets sur les côtés diversité, et ainsi de suite. C'est les mêmes sujets, mais comme on vit dans des écosystèmes qui sont bah, potentiellement plus paritaires, plus égalité, enfin plus équité, avec plus d'équité, bah, on n'a pas l'impression que ça marche. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de le rappeler et d'en parler parce que il faut qu'on arrête d'être choqué par ces chiffres, il faut que ces chiffres avancent réellement et qu'on arrête d'être choqué par ces chiffres qui n'avancent pas, tu vois. Tu le dis à juste titre, les chiffres de la parité n'avancent pas, les chiffres ou très très lentement, les chiffres du handicap, c'est exactement pareil et donc du coup il faut en parler parce que plus on en parlera, plus ça avancera. Donc c'est pour ça que je suis très heureux d'en avoir parlé avec toi aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir échangé avec moi sur ce sujet.
Bah, merci à toi. Mais c'est vrai que oui, quand on évolue, moi c'est pareil, j'évolue dans un monde où tout le monde à peu près a le même niveau d'études que moi, tout le monde travaille dans un bureau, tout le monde, beaucoup sont entrepreneurs, beaucoup sont dans les mêmes convictions que moi. Donc du coup, j'essaie d'aller me confronter régulièrement. Tu vois, tu l'as fait tout à l'heure quand tu parlais du déjeuner avec les autres chefs d'entreprise. C'est important d'aller confronter ces idées justement avec des gens qui ne pensent pas du tout comme nous. Et je vois, moi, par exemple, je le vois sur les réseaux sociaux. Quand je suis sur TikTok et je regarde les commentaires, ça me rappelle subitement que la majorité des gens ne sont pas d'accord avec moi sur certains sujets et que la majorité, enfin, peut-être pas la majorité, mais en tout cas, beaucoup de gens qui s'expriment, en tout cas, aux commentaires TikTok, visiblement, sont misogynes, sexistes et validistes, etc. D'accord.
Ouais, ça TikTok, remet c'est chaud quand même, des fois. Ouais, je suis
un
d'accord avec
peu, c'est
toi.
un peu la
TikTok, c'est quand
libre
même bien, bien, bien chaud quand même.
Bon, les
Mais si, c'est intéressant, justement.
commentaires Facebook, c'est pas mieux, hein.
Ouais, c'est juste que Facebook a moins de commentaires parce que du coup, comme Facebook est en train de baisser, voilà, mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu la
Ou
même chose.
Twitter, bah, Twitter, c'est pas mieux. Tu restes. Mais après, ça montre aussi la réalité du grand public, entre guillemets. C'est intéressant d'observer les tendances sur certains sujets, mais aussi de voir les évolutions qu'il y a eu sur certains sujets ou des trucs qui étaient dits il y a 30 ans et qui aujourd'hui, ça se dit. Enfin, on n'entend plus quoi, des horreurs pareilles. Il y a des trucs, tu vois, l'autre fois, je parlais avec ma famille par exemple, des anciennes BD, Tintin, ou Gaston Lagaffe et tout ça, et des blagues, notamment les blagues racistes qu'il y avait dans Tintin, ce genre de trucs. Aujourd'hui, c'est bon, on le ferait plus quand même. Bah, à l'époque, c'était pas il y a si longtemps que ça choquait pas, parce que c'était drôle, voilà, ça choquait pas personne, sauf peut-être les concernés, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention, tu vois, à pas renier ces choses-là, parce que ça a été fait à des époques qui sont particulières, donc il faut les
Non,
remettre
mais
dans le
faut
contexte. Mais
garder,
je suis complètement d'accord avec toi.
faut
Personne ne
garder
ferait ça
l'enfant en tête,
aujourd'hui. Enfin,
quoi.
c'est complètement logique que personne ne ferait ça aujourd'hui. Je suis complètement d'accord, hein,
Non, mais
complètement.
c'est là que tu vois aussi qu'il y a une évolution. Certes, on garde le patrimoine, mais c'est bien aussi de se dire qu'aujourd'hui, on ne tolérerait plus des blagues comme ça qui ont heurté des populations entières.
Complètement. Merci beaucoup, Marie. C'était trop
Merci,
cool de
Nicolas.
t'avoir.
Ouais.
Je vais chercher, comme j'ai adoré, je pense que je vais chercher un sujet pour qu'on en refasse un. Parce que
Pas
voilà,
de souci.
faut qu'on reparle tous les deux d'un autre sujet.
Avec plaisir.
Merci d'avoir été là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Alors, si vous avez aimé, je vous invite, parce qu'on me demande de le dire, pour pouvoir faire popper le podcast, je vous invite à venir liker le podcast, à venir mettre 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, à venir dire que tout
Cinq,
était bien.
attends. 5 étoiles.
5, pardon, 5, bah bien sûr, c'était extraordinaire. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parlait RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le Barbu qui parlait RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.